pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Il souffle un vent d'Ariège aux multiples hasards qui raconte une histoire aux gens de nulle part. Il existe une route où serpente l'espoir, faite de doux sentiers et de rêves épars. Il scintille une étoile quand arrive le soir, à inventer peut-être à l'ombre des jours noirs.
Bonjour et bienvenue dans Page après page. Nous avons bien supporté ce vent qui souffle d'Ariège pour recevoir Georges Patrick Glaise. Bonjour.
Bonjour.
Il a bien soufflé ce vent sur l'Ariège.
Oui, l'Ariège est toujours un beau pays et des fois le vent d'automne souffle et amène son parfum de mots.
Oui. Je vous reçois aujourd'hui, c'est pour un très grand plaisir, toujours bien partagé avec vous. Georges Patrick Glaise, vous êtes enseignant et vous êtes à la retraite, ça se passe bien ?
Oui, très bien, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, la littérature suffit à m'occuper.
Je sais bien. En 2009, vous avez été élu à l'Académie des arts, des lettres et des sciences du Languedoc, mais avant tout, vous êtes notre auteur ariégeois préféré. Cette musique que vous avez choisie là, avec ce vent d'automne qui a bien soufflé pour illustrer ce page après page, pourquoi ce choix ?
Eh bien, d'abord parce que c'est une chanson et un poème de André Soum, qui est un de mes collègues qui était CPE dans le Gousserand, et que je salue ici, qui est un très grand poète et très grand interprète. Et puis, il illustre bien un peu cette douceur de vivre qu'il y a en Ariège, dans le pays, qui est le pays de mes ancêtres, celui où j'ai toujours voulu vivre, même quand ma carrière d'enseignant m'a exilé à Dunkerque.
Oui, en effet, je comprends. Pour cette nomination de ce prix que vous avez eu en 2009, qu'est-ce que ça a apporté dans votre histoire et dans votre personnalité pour l'auteur que vous êtes aujourd'hui?
Oh, vous savez, il faut rester modeste à ce niveau-là. Hein, bon, hein.
Les
prix, ça va, ça vient. Bon, hein, ça, on en a parfois on n'en a pas, parfois on râle de ne pas l'avoir eu. Bon, moi, je n'attache pas une trop grande importance à ça. Ce qui m'importe beaucoup plus, c'est le contact avec mon lectorat. Et les prix qui donnent les lecteurs ont souvent beaucoup plus d'importance que les prix qu'on peut donner par ailleurs tel ou tel petit clan.
Oui.
Disons.
Pour ce livre que nous allons feuilleter aujourd'hui, vous avez dû piocher certainement dans vos souvenirs que ce soit d'école, de village, de famille, ou pas peut-être.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, dès le départ, je parle de choses qui sont réelles, qui existent, puisque tout ce que je raconte sur cette jeune femme, en fin de compte, qui est professeur oui. et qui habite Fontainebleau, je n'ai rien imaginé. Cette jeune femme, en réalité, c'est mon fils, puisque mon fils est prof d'histoire.
Ah, d'accord.
Et il était à l'époque à Fontainebleau, et donc j'ai décrit exactement son cheminement, son histoire et sa thèse. En l'occurrence, puisqu'il présente sa thèse de doctorat. Oui.
D'accord. Alors là, je n'aurais pas du tout fait le rapprochement. C'est vraiment... c'est une très belle idée. Dans les études également, vous êtes professeur et donc vous avez dû aussi mettre votre grain de sel.
Bien sûr. J'ai enseigné pendant 41 ans en Ariège et ailleurs. Et donc, je connais bien le monde de l'éducation nationale, notamment, bien sûr, et tout ce cheminement qu'il peut y avoir. Surtout quand on fait une thèse, on a besoin, les derniers mois, d'une grande paix, d'une grande sérénité. Et mon personnage, Laura, eh bien, elle va aller chercher cette paix de sérénité au fin fond d'une vallée de l'Ariège où elle espère être tranquille. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette tranquillité va être bousculée
tout
par les
fait.
Événements.
Tout à fait, en effet. Ce livre s'appelle « La montagne des autres ». C'est paru aux éditions Kalman, Lévy, dans la collection Territoire, et c'est paru en septembre 2021. Est-ce que vous êtes là avec ce livre à nouveau dans les secrets de famille ou secrets de village, s'il y en a ?
Non, pas du tout. Je ne suis plus dans les secrets de famille, je suis
d'accord.
dans une autre thématique, la thématique des intrigues policières. Et c'est le premier volet, entre guillemets, le premier opus,
oui
d'une nouvelle série ternaire qui est donc avec une intrigue policière beaucoup plus importante que les précédentes et avec les ingrédients du policier, c'est-à-dire notamment ce qu'il n'y avait pas dans les précédents du Maccabée,
oui,
je dirais
vrai.
En l'occurrence. Bon, hein. Donc
oui.
on est dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, j'ai dû, pour être en conformité avec la réalité des choses, notamment à la fin du bouquin, m'enjoindre les services de mes amis qui est colonel de gendarmerie et qui m'a expliqué les détails des procédures que je ne connaissais pas parce que moi je suis issu du monde de l'enseignement, je ne suis pas du monde de la justice ou de la gendarmerie. Donc c'est lui qui m'a mis au fait des choses. Il m'a dit donc ça se passe comme ça dans la réalité. Voilà.
Et oui, non, mais c'est vrai parce qu'on voit bien quand même que ça tient. Il y a du sens et c'est logique quelque part. Hein. Alors vous nous faites découvrir à travers ce livre l'Ariège vraiment profonde cette fois. Ce sont vos connaissances du tourisme aussi qui vous ont aidé ?
Oui, l'Ariège profonde, une Ariège qui est reculée et qui est sur le reculoir, je dirais,
oui.
hein, qui n'a pas envie de se livrer, qui a envie de rester elle-même. Et mes connaissances du monde touristique m'ont beaucoup aidé. J'ai été professeur pendant quelques années en Bethesda Tourisme il y a longtemps, en effet. Et ce que je décris, je l'ai vécu, le fil de fer avec les barbelés en
oui.
travers de la route, c'est une réalité qui existe encore.
C'est vrai.
Bon. Et malheur à celui qui oublie de fermer la clôture. Et il peut lui arriver des problèmes. Hein. Bon.
Alors, sur ce point, je trouve que, quand même, ils ont un petit peu raison. Parce que quand les animaux s'échappent, il faut cavaler après.
C'est vrai. Mais l'histoire des barbelés, ça va très loin. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les montagnes ou les espaces de grande randonnée sont souvent livrés aux vététistes. Et les vététistes doivent affronter ces dangers.
Ah, tout à fait.
Quand ce sont des barbelés qui sont mis en travers pour faire mal, c'est assez criminel.
Ah oui, tout à fait.
Il faut le dire. L'heure, en fait, de monde. Un monde qui veut que rien ne bouge et que tout soit fermé et verrouillé, et un monde qui souhaite bien avoir la montagne qui soit un peu comme un bol d'air et qui soit ouverte sur l'extérieur. Et c'est le choc de ces deux mondes qui
oui.
m'a paru intéressant.
Oui, c'est vrai. Et on le retrouve bien dans
ce livre. On le retrouve dedans.
Oui.
Et d'ailleurs, ce choc de ce monde, j'en parlais avec des responsables, moi, du tourisme en Ariège, et ils me disaient que c'est au cœur même de leurs préoccupations et au cœur même de leurs débats, parce que bon, tout le monde n'est pas d'accord sur quel avenir faut-il faire à cette montagne. Et ce roman, d'ailleurs, à la différence des romans précédents que j'ai écrits, il est actuel, il se passe de nos jours.
Tout à fait.
Il n'est pas en 1950, 60, etc. Non, il est en 2020.
Oui. Et bon, pour la petite histoire aussi, je suis contre le barbelé. Je n'aime pas ce fil de fer barbelé. Je trouve qu'une simple corde peut faire autant. Nous allons découvrir cette Ariège profonde en feuilletant ce livre. Le hameau, est-ce qu'il est vrai ? Vous l'avez déménagé ? ou vous l'avez bâti pour l'histoire ?
Alors, je l'ai à la fois déménagé, à partir de reconstitué à partir d'éléments réels. Bon, hein. De ce point de vue, il a atteint une dimension imaginaire. On a du mal à le situer, mais on voit le coin où il se situe dans la vallée. Bon,
d'accord. Voilà. Parfait. Originaire d'Ariège, donc, votre connaissance des sociétés rurales a dû être un atout pour vous,
oui.
J'en suis sûre, pour cette écriture. Et pour un peu, même, on sent les odeurs de fermes, de foin coupé. Est-ce que ça, c'est important pour vous, auteur, de le donner au lecteur ?
Tout à fait. C'est important parce que c'est toute la contexture, en fin de compte, que l'on fournit au lecteur. On lui permet de s'immerger dedans, de faire comme s'il y était réellement. Et les odeurs, l'odeur du foin coupé, l'odeur des bouses de vache,
oui.
Cette odeur qu'il y a un peu, des fois, un peu âpre, eh bien, ça fait partie du ressenti, en fin de compte, de cette montagne. Et ce qui lui donne à la fois son aspect humain et son aspect social.
Oui, oui. Qui sont les habitants du hameau ? Vous ne les avez pas inventés, eux, si ?
Alors, j'en ai inventé un ou deux, mais j'ai pris des types qui existent réellement. Il y en a un ou deux qui sont pas tout à fait dans cette vallée-là, mais dans d'autres vallées d'ailleurs, bon, et qui sont très pittoresques, bon,
oui.
Et qui sont des rudes.
Oui, parce qu'ils ne sont pas avenants. Hein.
Ah, ils ne sont pas très avenants, non, ils ne sont pas très avenants. Ils ne sont pas très avenants, bon, ce que j'ai mis derrière aussi, c'est les relations hommes-femmes entre les deux,
hein, oui.
qui sont particulières. Ce n'est pas les relations modernes comme on a aujourd'hui avec son conjoint.
Tout à
c'est,
fait.
C'est un peu différent. Les mariages étaient des affaires plus intérêt qu'autre chose. Bon. Et on supporte l'autre, même si, quoi qu'il fasse.
C'est vrai. Vous évoquez aussi le patrimoine gustatif de la Corrèze, alors, parce qu'on part aussi, non seulement on part de Fontainebleau, mais on fait une escale en Corrèze revenir en Ariège.
J'ai quelques raisons à faire une escale corrézienne, puisque ma femme est corrézienne. Donc,
oui.
Donc évidemment, tout ce que j'ai écrit sur la Corrèze, c'est exactement vrai.
Et donc là, c'est le touriste, l'épicurien qui parle ?
Oui, c'est le touriste, c'est l'épicurien, c'est celui qui est un peu extérieur, qui a un passeport pour la Corrèze depuis 40 ans, mais qui n'est pas corrézien, bon, mais qui comprend ces gens-là, qui a des affinités avec eux, qui arrive même à comprendre leur patois quand ils ne parlent pas trop vite.
Oui, la Corrèze, les Pyrénées, en tout cas l'Ariège, la Haute Ariège, ça un petit peu...
Il y a des ressemblances.
Oui.
Il y a des ressemblances au-delà de l'Occitan, qui est la base. Il y a des ressemblances dans les comportements paysans, etc. etc. Ma belle famille, moi, est une famille d'agriculteurs. Et donc, je retrouve parfaitement des points communs, les uns avec les autres, des préoccupations semblables. Hein. Bon, bien sûr, c'est tout à tout naturel. Hein.
Oui.
C'est, disons que la Corrèze, c'est un peu moins montagnard, moins montagneux que l'Ariège. Voilà.
Ma prochaine question, évidemment, vous avez répondu en partie. Donc, je vais vous demander qui est Laura, bien que nous sachions que c'est une image.
Alors, Laura, c'est une jeune femme, elle a une trentaine d'années. Elle est professeure d'histoire et elle était mutée à Fontainebleau, dans le nord de la France, comme beaucoup de jeunes enseignants célibataires. Et elle prépare une thèse de doctorat. Et donc, pour avoir la paix finir de régister sa thèse, elle qui est corrézienne, elle va s'exiler dans la maison d'une grande-tante au fin fond de la Haute-Ariège. Et là, elle dit « Je serai tranquille, mais le destin va la rattraper. »
Tout à fait, tout à fait. Ce lieu perdu, elle le trouve finalement assez facilement, puisqu'à peu près...
Oui, c'est grosse ferme qui est sur une soulane, un peu en retrait de la vallée principale. Et on est tranquille, il n'y a pas trop de confort, mais ça, c'est pas grave, elle ne s'attarde pas beaucoup à ce genre d'éléments. Bon,
oui.
Alors évidemment, la ferme est inhabitée depuis 5 ou 6 ans, donc elle a affronté l'environnement de toile d'araignée et de poussière, qui est assez rédhibitoire. Mais bon, ça ne la frappe pas beaucoup, parce que c'est une fille qui est moderne, mais qui n'est pas à cheval sur l'ordre, etc. etc. C'est un peu un garçon manqué, elle a un côté un peu garçon manqué.
Oui.
Elle aime beaucoup faire la randonnée, la marche, etc. Donc, bon, elle est rustique, disons.
Oui.
Elle est rustique.
Elle a gardé son âme de rustique.
Elle a gardé son âme rustique.
Tout à fait. Comment est-ce que fait un auteur pour choisir les prénoms ?
Pour choisir les prénoms, on prend les prénoms en général qui sont les plus typiques de son époque, de son âge. Alors je vais sur Internet, hein, et puis je demande le prénom qui est le plus typique des années 70 ou 80. On a une liste, et dedans on choisit dans la liste les noms qui vont bien. Et pour les noms de famille, on prend la numéro téléphonique, et les communes, on regarde les noms qu'il y a. Alors souvent, ces noms, il faut qu'ils ne soient pas un seul exemplaire. Donc c'est des noms comme Saint-Denac, comme Maury, comme Pujol, dont on est sûr qu'il y en a beaucoup et que personne ne pourra vraiment s'y retrouver, dire c'était lui.
Oui, voilà. Tout à fait, mais bien sûr.
Ça veut dire l'anonymat.
Oui. Au tiers de votre ouvrage, environ, hein, à quelque chose de près, alors qu'on ne donne pas cher de Laura, parce que déjà elle a eu quelques petites mésaventures, vous dites, à un moment, vous faites dire à une dame du hameau, faudrait pas qu'elle découvre. Et là, j'ai pensé que peut-être Laura est dans une maison où il y a un trésor. Après tout, vous nous avez mis un petit peu déjà sur cette piste. Est-ce que ça, c'est aussi pour relancer la lecture? Parce qu'à un moment, on descend, et puis hop, on a envie.
C'est pour relancer l'intérêt, pour rebondir en quelque sorte. Oui. On ne dit pas quoi, elle va découvrir.
Ah non.
On ne dit pas. Il y a du mystère, il y a du mystère qui plane dans l'air, et un suspense qui a le temps. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que le roman fait partie de la trilogie policière.
Tout à fait. Et puis moi, franchement, quand j'ai lu cette phrase, il ne faudrait pas qu'elle découvre et que le mari la fait taire. J'ai dit. C'est un trésor. Oui, non, mais je dis c'est un trésor.
Il n'y a pas de trésor. Façon de parler, il y en a un, mais c'est pas celui-là, il ne s'agit pas de ça, c'est le secret est ailleurs, et il est beaucoup plus âpre et beaucoup plus difficile à imaginer.
C'est vrai. Qui est Elena, alias La Louvre?
Alors Elena, c'est une Hollandaise qui a une quarantaine d'années, qui a mené une vie un peu de saltimbanque, de hippie, comme on dirait, hein, souvent, qui a été dans les communautés, et qui, finalement, avec un atterri en France, a rencontré un garçon, et ils ont eu une formation un peu de berger, ils l'ont reçu, et ils ont décidé, parce que le berger, les moutons, c'est pas trop leur truc, de créer un parc animalier dans les Pyrénées. Ils sont venus s'installer, donc, dans ce coin de Paumé, parce qu'ils avaient reçu un petit héritage, et là, ils ont acheté une ferme en face, juste en face de la maison que Laura va habiter, et là ils ont créé un parc animalier avec des loups, et donc dans le village évidemment où on l'appelle la louve, parce que les loups évidemment c'est pas un animal qui est très apprécié du monde rural, ça souffre des peurs ancestrales naturellement, on l'appelle la louve d'autant plus qu'elle est un peu pittoresque, elle a les cheveux orange, rousse, elle est un peu bicnique, une marginale hein, en quelque sorte, Je fais partie d'une contre-culture, en fin de compte, par rapport au monde rural dans lequel on vit.
Et de plus, elle fait peur, parce qu'elle veut laisser rentrer les autres dans la montagne.
Elle veut laisser rentrer les autres. Elle pense que la montagne doit être une montagne ouverte, et alors que ceux du hameau, eux, voient la montagne comme quelque chose de fermé. C'est stop, on ne passe pas, c'est zone interdite pour eux. Mm-mm. Et donc, elle est en conflit avec et ils lui ont fait pique-pendre, comme je ne dirais pas comme farce, comme blague.
Oui.
C'est comme malversation, des mauvaises actions, en fin de compte. Et ils vont continuer, d'ailleurs, avec Laura.
Tout à fait.
Ils vont continuer avec Laura, en essayant de la faire partir. Et je décris quelques scènes qui sont assez ignobles.
En effet.
Ignobles, mais qui, vous savez, sont vraies.
Ah oui?
Parfaitement vraies.
Ah oui?
Authentiques.
Alors là, je suis un peu étonnée.
Et c'est difficile. Oui. Ça tient à la fois à l'impression de la personne et aussi à la sorcellerie.
Ah oui.
Il y a ces deux côtés qui apparaissent.
D'accord.
Ces deux côtés.
Et oui, pour faire peur.
Faire peur.
D'accord. Vous laissez certainement notre imagination courir vers un accident, entre parenthèses, qui veille sur Laura. Pourquoi vous nous mettez dans cette situation de... C'est peut-être, comme vous dites, de la sorcellerie, mais c'est peut-être un accident. Parce qu'à un moment, on sent bien que pour la faire partir, eh ben, on ne va pas hésiter.
Ils sont prêts à tout. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs accidents, entre guillemets, oui. Curieux. Bon, il a glissé dans l'escalier. C'est vrai que ce jour-là, il y avait du gel. Il a pu glisser sur un peu de verglas. Telle dame, elle aussi, elle a dévissé sur un sentier de grande randonnée. Alors, c'était
Le frère aussi a glissé
de sa montagne. Il y a beaucoup d'accidentologie, disons. Mais en réalité, ça cache le fait qu'ils se sont débrouillés pour les éliminer, ce qui pouvait gêner.
Tout à fait. Ça se comprend à la fin. Page 143-144, Laura trouve un écrit de Léon, c'est-à-dire du monsieur justement qui est décédé de cette...
C'est pas
cette...
drôle d'ailleurs, Léon, c'est pas drôle, c'est pas rigolo. Hein.
Il est vraiment pas gentil.
Il est pas sympa.
Et là, c'est sûr, Laura doit se méfier.
Oui, elle comprend qu'il y a des... Je joue avec ça, c'est les retours en fin de compte. Et elle comprend qu'il faut que je fasse gaffe parce que c'est sa peau qui est en jeu. Ils iront jusqu'au bout.
Elle le comprend finalement.
Elle commence à se méfier. On n'est plus au stade du tue-tête, simplement, ou au stade des pneus que l'on crève. Ça va beaucoup plus loin.
Oui, en effet. Qui est Régis Roussel ? C'est un baroudeur qui a trouvé son chez lui ?
Alors c'est un baroudeur, c'est un gars qui a fait des études normales, ordinaires, mais il n'a pas suivi la fac finalement, et il avait envie de l'air pur, de campagne, donc il s'est engagé dans l'armée, il a fait 5 ans dans l'armée, il a eu un accident de parachute, et donc comme il ne pouvait pas rester sportif comme il le faisait dans l'armée, il a quitté l'armée, et il s'est revenu s'installer dans la vallée, après avoir fait un stage de reconversion de bûcheron. Et donc, il fait le bûcheronnage, un peu les travaux, et il vit un peu en marge. Bon, il bracole un peu aussi. Et c'est un garçon qui a une trentaine d'années, qui est un physique solide, et que rien n'effraie, et que l'on respecte, bon, parce qu'on n'a pas envie de lui casser les pieds, disons, parce qu'il vaut mieux pas lui casser les pieds.
Oui, parce que c'est un grand monsieur.
C'est un grand costaud.
On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Ah ben la montagne de Ferrat, parce que c'est à la fois d'abord une chanson remarquable, etc., d'une grande beauté, et puis qui remet bien la montagne au niveau où elle est, et dans la perspective du roman, beaucoup sont partis, quelques-uns veulent revenir, mais ce retour n'est pas forcément facile, ni souhaité par ceux qui y sont restés.
C'est vrai, on l'écoute.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, qu'il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. leur vie. Ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
Nous sommes en compagnie de Georges-Patrick Glaize et nous venons d'entendre donc cette chanson choisie par lui. Et c'était Jean Ferrat avec La Montagne. Son livre La Montagne des Autres, paru aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Territoire. Georges-Patrick, à la page 172, Laura va à Tarascon. Et là, en tout cas moi, à la lecture, j'ai pensé qu'elle allait être cambriolée. Mais dans la nuit, c'est le chat d'Elena qui en a fait les frais, cruellement d'ailleurs, comme vous le disiez. Ça, c'est l'ultimatum pour Laura ou un avertissement plus qu'averti?
C'est le dernier avertissement. Dernier avertissement avant le passage à l'acte. Et le chat, qui est là, c'est un magnifique chat, c'est un beau chat, brave bête, qui fait les frais de manière ignoble de la méchanceté, ces gens-là. Et je ne l'ai pas inventé. Les détails que je donne sont exacts. Hein. C'est assez horrible et affreux. Bon.
Mais ça existe encore aujourd'hui?
Ça existe encore aujourd'hui. C'est sur des chats, je l'ai vu, moi, aussi, sur des lapins. Un clapier de lapin entièrement ouvert, mutilé, et posé sur le paillasson de la personne en question.
Oh là là.
Vous imaginez un peu les froids que ça peut
faire.
Ah
oui, tout à fait.
Donc, ce sont des pratiques qui sont totalement résiduelles, bien sûr.
Oui.
C'est rare ici, mais on est pas courant dans nos montagnes, c'est pas ce que je veux dire.
Oui.
Mais certains peuvent arriver jusque-là. Donc, je n'ai pas rien inventé à ce niveau-là.
Oui.
Et c'est assez affreux.
Parce que Laura, du coup, elle est obligée de partir de la maison. Quoi.
Surtout quand vous trouvez ça à l'heure du petit déjeuner, ça vous coupe l'appétit, je pense.
Tout à fait.
Et ça vous met la peur au ventre et vous n'avez pas envie tellement de rester là. Bon,
hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que quand on le lit, on est à la place de Laura et on voit tout ça, quoi.
Oui, surtout que c'est une femme, elle, qui est une femme, je dirais, civilisée, urbanisée.
Oui.
Ce genre de pratique, elle n'est pas dans son environnement naturel. Bon, elle n'est pas du tout...
Oui. Après, il y a un passage aussi que j'ai lu à la page 186 qui m'a un petit peu émue. Vous faites référence au roman « Les châtaignes amères ». Est-ce qu'il le fallait et est-ce que ça a été émouvant pour vous d'écrire ce petit passage?
Disons que c'est un cadeau que j'ai fait à ma mère, puisque ma mère était l'auteur des châtaignes amères, et c'est en effet un cadeau que je lui ai fait. 5 ans après sa disparition, hein, c'est un renvoi à ascenseur en quelque sorte, parce qu'elle m'a toujours beaucoup aidé dans mon écriture, c'était elle qui me relisait souvent, donc c'est un clin d'œil. Bon, j'ai fait aussi un ou deux clins d'œil à une ou deux écrivaines, notamment à une amie, Denise Desjean, donc je fais lire le livre par un de mes héros. Bon, voilà, ce sont des petits amusements, disons. Bon.
Oui. L'Ozorette existe vraiment ou est-ce que c'est vous qui l'avez bâti avec votre plume?
Alors, elle existe, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Elle existe, elle est une ferme de l'ordre montagne au-dessus de Foix, qui est totalement abandonnée aujourd'hui, que j'ai reconstituée telle qu'elle pouvait être à l'époque.
D'accord.
Il y a les deux à la fois, il y a le bâtiment tel qu'il est, et puis il y a tout l'imaginaire qui s'est mis dessus et qui l'a fait revivre un peu, avec des éléments aussi que j'ai indiqués, qui étaient ceux que j'avais vus dans les Hautes-Pyrénées, chez une de mes amies, du côté de Bertrand, et là, j'avais visité les fermes, et donc je me suis souvenu de ça pour décrire un peu, en fin de compte, cet intérieur qu'il y avait.
Voilà. Alors, est-ce que ça vous arrive, justement, de vous promener quand il fait beau, parce que je suppose que c'est mieux quand c'est l'été, de vous promener et justement d'avoir l'œil ou le regard attiré par quelque chose de déceptionnel.
Tout à fait, je promène beaucoup, je fais beaucoup de photos, lesquelles photos me servent d'ailleurs pour nourrir mes romans, parce que je revois beaucoup de clichés, et ils me servent aussi des fois à faire les bandes annonces de mes clichés, et de mes photos. Et donc, ça, c'est très utile de se promener, de voir, découvrir.
Vous connaissez d'autres auteurs qui travaillent comme vous ?
Oui, vous avez beaucoup d'auteurs qui travaillent comme moi. Vous avez par exemple Bernard Minier, qui travaille exactement de la même manière.
D'accord. Laura veut apprendre à piloter le drone parce qu'elle pense retrouver justement les restes du frère de Léon. C'est bien ça que vous voulez ?
Elle pense pas. Oui, elle se dit que peut-être elle pourrait éventuellement. Alors, le drone, disons que c'est un appareil que Régis a des fins professionnelles pour faire des cubages de forêt. Et elle s'est dit que, si pouvait se servir de cet appareil, peut-être qu'elle pourrait apprendre à retrouver là où ce jeune homme est tombé.
Oui, parce que ça serait bien pour elle, puisque Léon est mort personne n'a vu son frère depuis 30 ans.
30 ans. Et elle pense qu'on peut peut-être retrouver un coin perdu dans une vallée étroite, etc., un amas de rochers où il serait tombé. Et pour se faire la main, elle apprend avec Régis à piloter le drone autour de la maison. Autour de la maison, elle se rencontre dans le toit. Il y a une espèce de Vélux, je dirais, comme on parle de mot moderne aujourd'hui, et qu'il y a quelque chose qui ne cloche, qui ne correspond pas entre la proportion de ce qu'elle connaît de l'étage, elle, en longueur, et ce qu'elle voit.
Et donc
elle
c'est
commence
la chambre
à penser qu'il y a, peut-être pas du chambre au trésor, mais une pièce secrète qui est cachée entre sa chambre à elle et le grenier.
Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est le trésor qui vient en premier.
Alors, elle pense au trésor, bien sûr, elle y pense. Elle y pense parce qu'elle a trouvé un petit coffre dans lequel elle a un pistolet automatique et quelques pièces de monnaie. Et puis des cartes postales, d'un courrier, etc., etc. Et donc, bien sûr, elle pense au trésor, mais en réalité, le trésor, c'est pas un vrai trésor au sens où on l'imagine.
Ce n'est pas moi qui en ai parlé.
Ce qu'elle va découvrir, en effet, je pense que le lecteur ne s'y attend pas et je ne le dirai pas. Ça dépasse l'imagination, l'entendement, mais dans les détails techniques, c'est parfaitement authentique. Et je me suis renseigné, mon ami le gendarme m'a abondamment expliqué comment c'est présenté, en effet, et quel aspect ça pouvait avoir.
Et c'est un événement qui a été vrai ?
Oui, authentique.
Oui, quand même.
Pas chez nous, en Ariège, pas ici, mais ailleurs.
Est-ce que c'est facile aussi pour vous, auteur, d'éliminer vos personnages ou de les créer, d'en faire venir des nouveaux ?
C'est très intéressant d'en faire venir des nouveaux, parce qu'on est un metteur en scène. Et donc, certains partent au départ sur une trajectoire dominante, puis finalement, la trajectoire dominante, elle devient mineure. Et d'autres, au contraire, qui rentrent en cours de route, deviennent des personnages dominants. Et on a cette espèce de jeu de personnages qui rentrent et qui sortent. C'est la grande scène de la vie. On est un peu magicien à ce niveau-là. C'est passionnant, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer ces gens avec un âge, un vêtement, d'éthique, un costume, une manière d'être, de parler, des expressions, un regard, un caractère, une bonhomie, des gens qui suscitent la haine, d'autres qui, au contraire, vont susciter l'admiration. Bon, il y a tous ces personnages. Alors, on compte sur ces personnages, on les étiquette en galerie. On imagine aussi les relations entre eux, père, fils, mère, les parentèles qu'il peut y avoir. Et on ferait des arbres généalogiques, littéralement, entre eux, comme j'avais fait pour là, par exemple, pour bâtir une société dans son ensemble.
Et ça, ça vous plaît ?
C'est très intéressant. Très intéressant.
Ben écoutez, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres comme ça. Dans ce livre, on va peut-être arriver un petit moment à devoir le refermer pour ne pas parler de la fin. Finalement, c'est la vie d'aujourd'hui, comme vous disiez au début, que vous vouliez peut-être refléter avec la peur de l'autre ou pas ?
La peur de l'autre, il y a dans ce côté-là, en effet, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Ce sont des mondes qui sont des mondes encore parfois assez clos, fermés sur eux-mêmes, très verrouillés, et qui ne veulent pas s'ouvrir et qui, pour en se plaçant en état de résistance ultime, arrive jusqu'au paroxysme de ce qu'on peut faire de la vie. Et ils sont prêts à beaucoup de choses. Ils sont prêts à beaucoup. Mais en même temps, bon, ils sont plus coupables parce que les actions qu'ils ont faites sont oubliées de la justice depuis longtemps.
Et Régis, lui, de par sa jeunesse un petit peu chahutée, on va dire, a une ancienne connaissance dans la gendarmerie, un gendarme à la retraite. Oui. Et est-ce que ça, c'est un personnage que vous avez fait rentrer justement pour aider Laura à pouvoir
tout
rester?
Tout à fait. Initialement, le personnage Roger Sicre n'était pas prévu. Et j'ai fait rentrer en utilisant un subterfuge, puisque c'est Régis qui est bûcheron qui lui fournit son bois de chauffage.
Et oui.
Et il a connaissance de cet ancien gendarme, et avec qui il a la sympathie, parce que bon, c'est grâce à ce Régis Sicre qui a été en poste dans la brigade d'Ozat que Laura va progresser dans sa, je dis pas son enquête, mais dans sa soif de savoir. Et il va lui expliquer beaucoup de choses. Parce qu'il a tout ce qu'on appelle le background en anglais, l'arrière-plan, hein, en fin de compte. Lui, il connaît. Il a fait partie de ceux qui ont cherché au début ce qui était arrivé à ce monsieur qui avait disparu en montagne.
Et
là, il va avoir la réponse.
Et oui.
30 ans après.
Et 30 ans après, c'est ça. 30 ans qui se déroulent dans ce livre, finalement. Mais comme d'habitude, vous commencez par la fin, vous revenez au milieu, et après il y a une chute dont nous n'allons pas dévoiler, justement, parce que c'est très important. Et finalement, Laura et la Louve sont des amis.
Oui, elles sont amies parce que, bon, bien que ce soit de milieux très différents et d'un passé très différent, dans l'adversité, elles ont une sympathie naturelle. Et puis le roman se termine aussi comme un roman d'amour.
Et oui, c'est vrai.
Un roman d'amour, il faut une petite pensée sentimentale à la fin. Oui. Je ne dis pas laquelle, mais bon, ce n'est pas celle que l'on croit.
Non.
D'ailleurs, on aurait pu s'attendre à autre chose.
Oui.
Mais ce n'est pas celle que l'on croit, mais elle est parfaitement... Voilà.
Ah oui, non, mais elle va bien, je trouve, elle va bien. Je voudrais peut-être aussi qu'on parle d'un personnage qu'on n'a pas vu, puisqu'il a disparu avant qu'on ne commence la lecture. La Louve avait un compagnon, et ce compagnon est mort étrangement.
Il est mort étrangement, oui. Il est mort étrangement, on l'a retrouvé pendu à un arbre, alors qu'il n'avait aucune raison de se pendre. Et ce que je révèle, c'est que cette pendaison est d'autant plus curieuse qu'il y avait les genoux qui touchaient par terre.
Ouais.
Donc ce petit détail suffit à faire comprendre que on l'a peut-être pendu au lieu, pas tout seul.
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
Donc, et ça fait partie de ce processus d'élimination de gens qui. C'est un roman aussi qui cultive qui montre bien le huis clos qu'il y a, parce qu'il y a un huis clos terrible dans ce village, avec une omerta, il n'y a personne qui vient. C'est verrouillé de partout.
Hein. Et oui. C'est vrai, parce que je me suis dit, moi, à un moment, les gendarmes, quand même, ils vont faire leur petite enquête, ils vont venir. Finalement, non.
Non, circuler, il n'y a rien à voir.
Oui.
Ils sont verrouillés, ils sont bloqués complètement. Personne n'y monte. Bon, ils sont entre eux. Mm-hmm. Ils veulent le rester.
Oui. Et pour cause.
Alors, la difficulté pour moi a été de trouver un lieu d'Ariège où je pouvais positionner le roman. Parce que derrière cette intrigue, il y a la création d'une station de ski.
Et oui. J'allais oublier presque de vous en parler.
Il fallait que je trouve, géographiquement parlant, un endroit où on pouvait positionner une station de ski, qui soit un endroit de moyenne altitude, telles qu'on les a construites dans les années 60-70, hein, avec les difficultés aujourd'hui que ces stations connaissent, bien sûr, parce que le réchauffement climatique fait qu'il n'y a pas beaucoup de neige.
Mm-hmm.
Et donc j'avais trouvé un endroit, après avoir bien étudié les cartes d'état-major, où on pouvait, peut-être, on aurait pu positionner une station de ski qui n'était pas très loin de là.
Oui, et c'est quelque chose qui s'était
non.
Peut-être...
Ah non, il n'y a jamais eu ça.
C'est vraiment inventé
complètement, mais la géographie aurait pu s'y prêter.
Oui.
S'y prêter.
Les recherches, vous les faites à mesure ou vous les faites
Alors,
avant?
Ça a été fait bon, avant parce que je me suis positionné sur la vallée l'année dernière déjà pour pouvoir aller voir un peu comment j'étais, etc. etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure, et en cours avec utilisant les moyens modernes que l'on a aujourd'hui avec Internet,
oui.
Et puis les collections de cartes postales qu'on peut avoir, etc., les photos, les films, tout ce qu'on peut ramasser, hein, bien sûr. Quitte à revenir sur le terrain pour vérifier ensuite s'il y a quelque chose à voir.
Bon. Mais c'est fou, ça vous occupe.
Ça occupe beaucoup de temps. Hein.
L'auteur que vous êtes à 100% de votre temps.
Je suis dedans. Là, je suis dans le prochain roman. Et le prochain roman, qui est un roman particulier, qui est la suite d'une trilogie policière, hein, il ne se passera pas en Ariège.
Ah.
Parce que quand j'ai donné mon scénario à mon éditeur m'a dit qu'il va falloir qu'on te paye les gardes du corps. Donc, pour la paix des ménages, je l'ai localisé dans un autre département, beaucoup plus
oui.
Lointain.
Et montagne aussi ?
Montagne aussi. Moins montagne, moyenne montagne.
Oui.
Mais boisé.
D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, la montagne, ça vous tient au corps, finalement ?
La montagne tient au corps. Bon, moi, j'ai toujours été, entre guillemets, montagnard. Bon, vous savez, dans les Pyrénées, quand j'avais 5 ans, on m'a mis sur des skis pour faire du ski. Bon, c'était naturel. c'était logique. Bon, hein. Donc, j'ai fait l'alpinisme, j'ai fait la rappe. Bon, je suis moniteur haute montagne. Il y a longtemps que j'ai pu exercer. Hein. Mm-hmm. Mais quand j'avais 25 ans, j'étais moniteur haute montagne. Bon, j'ai fait des camps de montagne dans les Alpes, le Queyras. Bon, la montagne m'a toujours beaucoup plu. Maintenant, je la fréquente un peu moins parce que bon, mes forces me trahissent, disons, et j'ai plus le jarret d'acier que j'avais autrefois. Mais c'était la montagne, elle est là et c'est parce qu'elle est là qu'on a envie d'y monter.
Oui. Que vous en dites ceux qui ont déjà lu ce livre ?
Pour l'instant, il semble bien marcher.
Oui.
Disons qu'il a été très apprécié par mes éditeurs qui en ont été vraiment enthousiastes. Tous les deux. Et auprès du public, il rencontre un accueil qui est très très positif. Et il a recueilli aussi un accueil très positif au niveau des institutionnels, je dirais, parce qu'il pose le débat, justement, c'est un moment d'actualité,
oui.
De ce qu'on doit faire de nos espaces montagnards. On est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui, bon, entre la tentation du retour en arrière et du verrouillage, et puis de l'ouverture sur le reste du monde.
Mm-hmm. Oui, c'est un débat.
C'est un débat.
Qui s'ouvre.
C'est un débat. Donc oui. Voilà, on est dans cette problématique-là.
Oui.
Et cette problématique, le roman, il tombe bien. Bon. Et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, bon, vous avez par exemple le fait qu'il y ait une pétition signée par 16 000 vététistes pour empêcher qu'on barre les chemins, ça montre bien l'acuité du problème en question.
Oui, en effet, oui. Où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage ? Parce que si on veut se le procurer...
Partout en France, dans toutes les bonnes librairies,
oui.
Selon l'expression consacrée, dans les grandes surfaces aussi, bien sûr. Il est diffusé par Hachette, une diffusion qui est nationale. Bon, et, il sera présenté à la Foire du Livre de Brive dans 15 jours, sur le stade de Calmann-Lévis, où je serai moi-même, bien sûr, pour faire une signature.
D'accord, entendu. Eh bien, on peut aussi le commander chez son libraire.
Bien sûr, on peut le commander chez le libraire ou par Internet, pour ceux qui n'ont pas de librairie à proximité.
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Georges Patrick, de cette présentation. Encore une fois, vous avez éclairé ma lecture parce que j'avais besoin aussi de quelques autres lumières, évidemment. Bien que depuis le temps qu'on se connaît maintenant, je commence à comprendre votre façon de travailler. En tout cas, vous nous avez concocté un très bel ouvrage. Parce que donner la montagne aux autres, ça ne doit pas être facile quand on est montagnard.
Ce n'est pas facile d'accepter que les autres viennent en montagne.
Oui.
Ce n'est jamais facile de partager quelque chose qu'on a pour soi-même.
Oui, c'est vrai. Et ça se comprend, hein ? Ça se comprend. Vous nous avez fait aussi plonger dans l'histoire parce que vous nous avez fait faire aussi un créneau par l'Argentine.
Tout à fait, oui.
Ça aussi, c'était prémédité ? ou c'est...
C'est prémédité. J'aime beaucoup l'Amérique latine, disons. Et
d'accord.
C'est un peu prémédité.
Oui.
Voilà. Dans plusieurs de mes romans, il y a eu des passages sur l'Amérique latine, sur le sud du pays araucan, etc.
Bon, oui.
Et sur le Canada également aussi, que je connais bien.
Mais merci de votre confiance.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'accueillir.
De venir toujours vous épancher sur de vos écritures. Est-ce qu'il y a, donc vous l'avez dit, il y a un autre livre, est-ce qu'il est en passe d'être fini ou pas?
Non, il n'est pas en passe. Je l'ai fait en gros 30%, un tiers.
D'accord.
Un tiers, et il doit être livré normalement en avril 2022 pour une parution en septembre 2022.
D'accord.
Voilà. Donc là, on va retrouver le rythme normal d'un roman par an. L'année dernière, c'est une année un peu particulière, puisque j'ai publié en même temps un livre qui n'est pas un roman, mais qui est un opus historique, Ces Ariégeois qui ont fait l'histoire,
oui.
Qui est un peu l'enfant du Covid, en quelque sorte, dans la mesure où ayant beaucoup de temps disponible, faute de pouvoir faire des salons et des signatures,
oui.
Eh bien, j'ai pu commettre deux ouvrages. Mais on va revenir maintenant, en période normale, à un roman par an traditionnel. Voilà.
Oui. Vous avez besoin du public, justement, parce
oui.
que dans les salons, vous rencontrez énormément.
Oui, moi, personnellement, je fais partie des auteurs qui ont besoin du public, d'échanger, de discuter, de voir. Parce que le métier d'auteur est un métier où on est très isolé, seul, artisan, et j'ai besoin d'avoir le ressenti de celui qui va le lire, celui qui est en face, exactement. Et ça, la période de crise sanitaire nous a complètement coupé les ailes, littéralement. On s'est trouvé très isolé. Et maintenant, on peut retrouver un peu de vie normale.
Est-ce que, par exemple, là, sur la montagne des autres, si vous avez un lecteur qui vous fait une remarque, qui vous dit quelque chose, est-ce que vous allez vous en servir pour d'autres romans?
Oui, on la prend pour ce qu'elle est, hein, avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Bon, et bon, bien sûr, oui. Des fois, on passe à côté de quelque chose qu'on ne voit pas. Même si on passe à 9 mois à triturer les mots pour faire un roman, il peut y avoir des éléments discordants qu'on n'a pas vus. Et, ou des choses, ah oui, tiens, bizarre, bon, je ne l'aurais pas vu comme ça.
Oui.
Mais bien sûr, on le prend en compte et on le met à la caisse d'épargne pour s'en servir ultérieurement si besoin est. Bon, après, chaque roman est différent l'un de l'autre, donc c'est pas du copier-coller qu'on fait.
Ah non, tout à fait.
Ce sont des histoires complètement séparées. Le prochain, il se passe à nouveau de nos jours, en 2019-2020. Bon, il y a quelques retours à l'arrière, historiquement parlant, il y en aura peut-être, bon, mais c'est pas encore trop. J'ai un synopsis général, mais il faut bâtir tout ça de manière beaucoup plus encore serrée. Au fur et à mesure que l'écriture, ça se resserre.
Mm-hmm.
Ça se resserre, mais bon, il faut du temps en temps.
Oui. Et est-ce que, par exemple, un lecteur peut vous dire « Ah, mais moi, je connais cette maison, mais je la connais bien, je sais où elle est, je sais de quel point... »
Oui, ça m'est arrivé, souvent de voir des lecteurs qui me disent « Ah, mais la maison dont vous parlez, là, à droite, elle n'est pas à droite, elle est 20 mètres plus à gauche. Hein. » ils ont raison, parce que souvent, c'est moi qui fais ou les faits d'erreur volontaire ou involontaire, ou ma précision n'a pas été exceptionnelle. Mais c'est vrai que souvent, les lecteurs, ils vont sur place, sur le terrain, avec le bouquin à la main, ils vont vérifier si ce que je dis, c'est bien vrai. Et c'est pour ça que moi, je viens aussi sur le terrain avant pour voir un peu ce que je vais pouvoir le raconter. Et il faut que ça ait de l'aspect du réel, du vécu. Et il faut que cette dimension, ils puissent la sentir. Et parce que je sais qu'ils vont aller vérifier.
C'est génial.
Je ne sais pas si c'est génial. En tout cas, c'est comme ça que les lecteurs font souvent. Donc, il faut être... je travaille comme un journaliste, en fait, une sorte de terrain. Et je prends beaucoup de photos, toujours. Parce que quand j'écris, je regarde les photos que j'ai prises et ça me sert à me remémorer un peu ce que j'ai pu voir.
Voir.
Et puis, c'est aussi le moins-disant, en allant sur le terrain, des fois, de glaner des anecdotes, des détails, etc., que l'on n'aurait pas pensé voir.
Et vous, quand vous allez sur le terrain comme ça, vous parlez avec les gens du cru?
Oui, on parle avec les gens du cru. Alors des fois, je passe pour le touriste.
Oui.
Je joue le touriste, bon. C'est-à-dire que bon, je regarde ça en posant des questions un peu idiotes. Ou des fois, je me révèle en tant qu'écrivain. Alors je dis oui, je prépare un bouquin là-dessus, etc., etc. Mais pas toujours. Des fois, il vaut mieux y aller en faisant les gros sabots, bon, hein, le grand bonnet, bon, pour essayer que les gens, ils parlent, c'est une question de feeling.
Oui.
Ça dépend de comment on va le sentir, bon, c'est...
Est-ce qu'il vous est arrivé que ces gens-là reviennent un jour à la signature et vous disent « Ah mais, Voilà pourquoi.
Ça m'est arrivé. Alors, c'est amusant, bon, la discussion est amusante. Bon. Mais des fois, on apprend des choses surprenantes qu'on n'a pas jamais imaginées. Hein. Quand j'ai écrit une nuit en juin, j'ai raconté par exemple comment le curé du village de Dor, il récupérait pendant la guerre les faux papiers et il les mettait dans les prie-dieux de ses paroissiennes pour que celles-ci, en s'agenouillant, pour faire leur sanctification, les vieillissent artificiellement de manière à faire croire aux Allemands que c'est des vrais faux papiers.
D'accord.
Et les sommes ont été authentifiées par une... à Dor, exactement.
Ah oui.
Quand j'ai fait mon enquête sur le village de Dor, vous voyez.
Ah, c'est génial. Georges-Patrick Glaise, l'heure est venue, il va falloir qu'on se quitte. Vous nous avez promis une musique pour finir ce page après page. Qu'est-ce qu'elle rappelle pour vous ?
C'est une musique plus d'ambiance, hein,
oui.
Ce sont les sentiers lumineux, et je pense que ça vous permettra de vous immerger un peu plus dans le contexte, disons. Si j'avais dû faire un film, c'est bien une musique que j'aurais mis derrière.
D'accord.
Voilà, à chacun d'imaginer la vie qui va avec.
Alors justement, vous qui êtes fils d'une comédienne, comment se fait-il qu'aucun de vos livres n'ait été transporté à l'écran ? Parce que, comme ils sont écrits, celui qui va le mettre en scène n'a même pas besoin de changer une virgule.
Alors, j'avais posé la question à mon éditeur précédent, Albert Michel, et Albert Michel m'avait fait une remarque que je trouvais assez succulente. Il m'a dit « Vous connaissez un producteur ?» Le producteur étant la personne qui a les sous, qui a l'argent pour faire un film. Je n'ai pas, malheureusement, je ne connais pas. J'ai assez fortuné. Donc la question, elle est là. Voilà, bon, c'est très difficile. Vous avez aujourd'hui de faire un film à partir d'un bouquin. Mon camarade Christian Sillon est en train d'en faire un, mais puis la Rivière Espérance, il n'a rien eu. Et il faut. C'est pas régulier. Donc il faut des années, souvent. Il faut avoir la chance, l'opportunité. Un réalisateur qui connaît un producteur, qui tombe amoureux d'un bouquin, ça se fait comme ça. C'est pas calculé. Et les budgets sont étroits. Bon, il y a plein de contingences, c'est vraiment très difficile. Si vous connaissez un producteur, moi je suis prêt à travailler avec lui.
Mais alors, je n'aimerais pas qu'ils prennent les libertés qu'ils ont prises avec la Rivière Espérance.
Alors, oui, disons que c'est le problème de la traduction, c'est que souvent, les adaptations sont d'une fidélité plus ou moins lointaine.
Oui, c'est ça.
Par rapport aux fois, l'écrivain lui-même a du mal à reconnaître son bébé.
Tout à fait, bon, tout à voilà, fait. Bon, et ça, c'est dommage.
C'est un peu difficile, parfois.
Oui, voilà. C'est dommage. Bon. Eh bien, Georges-Patrick Glaise, je vais vous dire au revoir. Pour ma part, je vais vous laisser le mot de la fin. Et vous allez donc nous dire ce que vous espérez pour cette fin d'année.
Eh bien, écoutez, j'espère que les lecteurs, d'abord, aimeront lire ce livre, hein, qu'ils se régaleront avec, que ça leur fera oublier peut-être les difficiles moments que nous avons connus précédemment. Ça leur permettra d'attendre le prochain, dans quelques mois, et puis que, également, bon, ils verront un peu l'avenir de la montagne, quel avenir on peut faire à la montagne, ils pourront réfléchir dessus. Et quand ils iront en montagne, eh bien, ils le regarderont de notre œil.
Oui, et en le respectant.
En le respectant.
Merci, à bientôt.
Merci.
c'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur. Mmh.